C'est important de dire qu'on ne s'est pas concerté. Hein. Alors, le thème de mon sujet, il m'est venu au travail, comme beaucoup en ce moment. En fait, au travail, donc je dépends maintenant directement du directeur. J'ai plus de chef au-dessus de moi pour amortir. Et donc, il vient me demander régulièrement des nouvelles. Et en fait, il est capable de venir me demander plusieurs fois par jour où en est un projet annuel, voire pluriannuel. Donc, vous voyez, quand il y a des choses sur la durée comme ça, on avait pour un an, 2 ans, et puis tous les jours, il est là. Alors, ça en est où? Alors, ça en est où? Alors. Donc, on peut trouver des tas de qualificatifs pour cette manière de faire, on va dire. Mais après, c'est surtout en fonction de si on le subit ou si on le fait nous-mêmes qu'on va le qualifier différemment, n'est-ce pas? Je vais en rester au qualificatif de persévérance. C'est-à-dire que mon directeur, il est persévérant, il lâche pas le morceau. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible comme ça? Et celui qui m'est venu directement en tête, c'est celui qu'on trouve dans Luc 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On voit le même comportement. J'imagine cette dame qui vit dans la même ville, et puis à chaque fois qu'elle le croise, bonjour monsieur le juge, alors c'en est où mon affaire? Hein? Quand est-ce que vous en occupez? Et s'ils se croisent deux, trois fois par jour, alors monsieur le juge, mon affaire, elle en est où depuis ce matin? Et voilà, ainsi de suite comme ça. Et le juge, il a les propos qu'on aurait nous dans notre bouche, hein, qu'elle vienne sans cesse me casser la tête ou me casser les pieds. Voilà, ça va être notre expression à nous. Et cette dame, elle obtient ce qu'elle veut. Elle obtient ce qui est normal en fait. Hein. Ce n'est pas juste un caprice de sa part. C'est juste qu'elle a besoin de ce jugement, d'avoir justice. Et elle l'obtient par persévérance, parce qu'elle ne lâche pas le morceau. Mon directeur aussi finit par obtenir des choses parce qu'on finit par craquer et se dire, bon, je lui fais parce que sinon ça ne va pas aller. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus sur ce comportement-là? Il dit que Dieu va faire justice. C'était tout, tout, tout. Au verset 16, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? On sait très bien que la réponse est oui, bah oui, bien sûr qu'il va le faire. Mais les élus, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient à lui jour et nuit. Jour et nuit, ça donne aussi cette idée, comme la dame dont il est fait mention plus haut, comme la veuve, tout le temps, je vais vers Dieu et je dis, Seigneur, il y a ça qui est promis, il y a ça qui est pour moi, Seigneur, je ne veux pas lâcher, c'est pour moi, tu me l'as promis, je le veux, je le veux. Voilà. Dans un sens, on casse les pieds à Dieu. Parce qu'il y a des promesses qui nous sont faites et on peut en bénéficier. Et la part de Dieu, c'est de réaliser ces promesses-là. Notre part à nous, c'est de crier à lui jour et nuit, de persévérer dans nos demandes. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que nous, on aura joué notre rôle? Est-ce qu'on aura gardé la foi? C'est ça notre persévérance, c'est pas juste réclamer des choses à Dieu et casser les pieds parce que je veux ci, je veux ça, comme un enfant gâté, en fait. Mais c'est se baser sur ce qu'il nous dit, sur ce qu'il nous promet. Et juste réclamer le bénéfice de ça et persévérer. On voit le témoignage d'Arlette et de Raymond de 20 ans de prière pour amener quelqu'un au Seigneur. Ça, c'est pas de la persévérance. C'est de cette persévérance, pardon, c'est de cette persévérance-là que je veux parler ce matin. Dans Matthieu 10, verset 22, on dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et que c'est pas juste, on ne peut pas dire je persévère une fois, je persévère jusqu'à la fin. On pourrait presque ne pas mettre jusqu'à la fin dans la phrase, celui qui persévère sera sauvé. Alors, J'avais donné l'année dernière un message sur les péchés récurrents. Vous savez, des choses dans lesquelles on tombe, et puis on a du mal à se relever, et puis on retombe, et puis voilà, et c'est quelque chose qui nous pourrit la vie. Et en fait, dans ce cas-là, je pense que c'est un cas typique où on a besoin de persévérance, en fait. On a une promesse du Seigneur de nous sauver, de nous délivrer du péché. Malheureusement, ça arrive qu'on rechute. Il faut pas baisser les bras dès le premier coup. Il faut se relever et Seigneur, tu m'as promis, je veux m'accrocher à ta promesse et je veux te faire confiance que ça va se réaliser pleinement. L'image que j'avais en tête, c'était l'enfant qui apprend à rouler en vélo. Donc, sans les petits trous, sinon c'est compliqué de tomber, mais l'enfant qui apprend à rouler, il va chuter. Si à la première chute, il se relève, moi plus jamais je touche à un vélo, j'en veux plus, c'est fini. Je veux plus, je ne saurais jamais rouler, je suis trop nul. Bon, c'est pas comme ça qu'il va avancer. Ça marche aussi avec l'adulte d'ailleurs. Maï, elle s'est cassée la figure à R quand on était encore à R, à l'arrêt. C'est les chutes les plus idiotes, mais moi je me suis cassé la figure en voulant taper un néon. Voilà, chacun son lot d'idioties. Mais elle s'est cassée la figure en vélo, elle était bien amochée, et ensuite elle n'a plus jamais fait de vélo. Bah non, elle a repris son vélo et puis elle est repartie. Il y en a qui me regardent avec des gros yeux. Bah non, justement, le comportement normal, c'est que on sait très bien, surtout quand on est un adulte, c'est pour ça que je prends plutôt un exemple d'un adulte, c'est que on sait rouler en vélo. Donc bah on est tombé, oui, ça arrive, c'est comme ça, et puis on repart et on réessaye, et voilà. Si elle s'était dit ça comme ça, bon voilà, je fais plus jamais de vélo. Bon, c'est pas hyper pénalisant dans la vie, mais c'est quand même dommage. Pourquoi elle a continué? Parce qu'elle savait rouler en vélo. Et depuis. A priori, elle ne s'est pas cassée la figure, donc ça confirme. Alors pourquoi est-ce qu'on est si défaitiste quand on chute avec le Seigneur? C'est la même chose. On sait qu'on est au Seigneur, on sait qu'on bénéficie de promesses, d'un tas de choses dans la Bible, et pourtant on chute et là on dit Seigneur, j'arrive pas à la vie chrétienne, c'est. Et puis on a tendance à rester en bas beaucoup plus longtemps qu'avec le vélo. Avec le vélo, l'enfant qui chute, bon après des fois il faut le soigner un peu et voilà, mais la plupart du temps il va se remettre sur son vélo et il repart. Et nous, avec le Seigneur, on tombe et puis on reste pendant longtemps au sol. Et un Seigneur, c'est tellement compliqué. Finalement, est-ce que j'ai vraiment eu cette promesse-là? Est-ce que? Et puis, il y a des doutes partout. Et la persévérance, c'est une question de confiance. J'ai confiance que je sais rouler en vélo, donc je vais pouvoir me remettre sur mon vélo et repartir. J'ai confiance que j'appartiens au Seigneur qui m'a délivré du péché. Donc, je remets en route, je me remets sur le chemin et je suis parti avec le Seigneur. Ça ne m'évitera pas peut-être une gamelle supplémentaire, mais j'appartiens au Seigneur et ça va forcément se réaliser. En fait, on a tendance avec le Seigneur, je pense que c'est lié au doute, hein, mais à repartir de zéro systématiquement. T'as l'enfant qui a commencé à pédaler, faire quelques tours, il va repartir et puis il y a déjà plus d'assurance, il sait à peu près comment il faut se placer, voilà, il y a des choses qui font qu'il ne repart pas à zéro complètement. Maï, elle n'a pas réappris à rouler en vélo quand elle est tombée. Elle savait rouler en vélo, elle est repartie, et voilà, elle a profité de ses acquis. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est de quand on chute avec le Seigneur, la persévérance, c'est pas je recommence tout avec le Seigneur, je repars au début. Alors, le salut, est-ce que je suis sauvé? Voilà, on rigole, mais on a tendance à être comme ça dans notre tête, à réfléchir, à tourner, à dire, mais Seigneur, finalement, est-ce que c'est pas un signe que mon salut n'est pas complet? Est-ce que. Et puis, on met des tas de doutes comme ça. Et je crois que la persévérance, elle est liée à la confiance dans le Seigneur, à la confiance en notre salut. Quels sont les témoignages les plus frappants? Pas ceux où quelqu'un nous dit qu'il n'avait pas confiance en Dieu et qu'il a été exaucé. C'est pas très marquant comme témoignage. J'ai pas pu en trouver d'exemple dans ma tête d'ailleurs. Ce qui nous marque, c'est des témoignages de gens qui ont rien et qui font confiance au Seigneur, ils disent bah, j'ai confiance, tu vas répondre à mes prières. J'ai en tête juste un enfant, on a vu ça dans une des vidéos, je pense avec Paul il y a quelques semaines, qui avait rien à manger, qui dit à sa maman, mais Dieu, il va nous donner à manger. Il part prier et quand il redescend, il y a quelqu'un à la porte qui bah tiens, j'avais quelque chose à vous donner. C'est ces exemples-là qui nous frappent en fait. C'est pas les exemples de non-confiance qui nous frappent, c'est ceux où les gens ils ont fait une confiance aveugle au Seigneur. Ils ont tenu bon jusqu'au moment où le Seigneur a répondu. Et il y a notre problème à nous, c'est ce délai-là, en fait. C'est que des fois, le Seigneur dit, bah, je te promets ça, très bien. Et puis nous, à la première occasion, bah, Seigneur, alors, ça en est où? Et le Seigneur dit, mais hé, je te l'ai promis, mais je t'ai pas dit quand. Il y a une durée là, et cette durée, elle a une importance. Et cette importance-là, bah, c'est notre persévérance à nous, c'est d'aller plus loin et voilà, de persévérer, c'est le terme. mon directeur de laboratoire, toujours lui, qui me marque. Il a une technique bien particulière qui est, on va dire, de verrouiller les acquis. Donc en réunion, quand ça commence à s'écharper, à tirer dans tous les coins, tout ça, il finit par arrêter le jeu, à faire temps mort, et dit « Bon, alors, sur quoi est-ce qu'on est d'accord ?» Et il repart dans les débats, et il repart aussi loin qu'il le faut. S'il faut repartir sur un truc complètement basique, complètement évident, il dit « Bon, ça, tout le monde est d'accord ? Ok, ça, on est d'accord. » Et il y a presque le « ça, on est d'accord, c'est verrouillé, c'est bon. » Alors, suite. Et il avance comme ça, et même si c'est une bricole, hein, bon, ça aussi, on est d'accord ? Allez, c'est d'accord. Et à la fin de la réunion, on finit par arriver sur quelque chose. Quand lui, il est décidé, en tout cas, on arrive à quelque chose à la fin. Parce que, voilà, point par point, même si c'est des petites bricoles, il va les bloquer. Et si à un moment donné, vous dites, je ne suis pas d'accord, moi, avec ça. Et, monsieur Terrier, vous avez dit oui à ça, dit oui à ça, vous avez dit oui à ça, à ça, à ça. Donc voilà, jusqu'ici, je ne vois pas où est le problème. Et, voilà. Alors, c'est une technique particulière, c'est du management, hein, mais dans un sens, quand il a envie d'obtenir quelque chose, il arrive à avancer. Alors, c'est des fois un peu long parce que point par point, et voilà, c'est. Il en faut des points pour arriver jusqu'au bout, mais il obtient quelque chose. Et alors, même si c'est pas une. Si c'est pas quelque chose qu'il faut tout le temps faire dans notre vie, mais je pense qu'il y a une idée qui est intéressante pour nous dans notre foi chrétienne, de ne pas repartir, comme je vous disais, de repartir de zéro à chaque fois. Il faut se baser sur les acquis dans notre vie avec le Seigneur. Et si vous faites une randonnée, vous allez pouvoir aller jusqu'à un certain nombre de kilomètres en fonction des gens, mais au bout d'un moment, vous allez devoir rentrer à votre camp. Si par contre, vous embarquez votre matériel avec et que vous campez en cours de route, ou que vous trouvez un refuge ou quoi que ce soit, vous pourrez repartir de là pour aller encore plus loin après. Et je pense dans la persévérance, il y a cette idée-là, on le verra après, on va forcément revenir à la définition, mais dans la persévérance, il y a cette idée d'aller plus loin. Et si à chaque fois vous repartez de zéro parce que vous avez chuté, parce que vous n'avez pas confiance, parce que autre chose, vous avancez pas. Vous allez toujours avoir un rayon d'action qui sera très très limité. Alors pourquoi je vous parle de ça, d'aller plus loin? Parce que persévérance, ça vient du latin persevero. Persevero qui est composé de per, qui veut dire aller plus loin en passant au-dessus ou au-delà d'eux. Donc c'est l'équivalent des préfixes fort en anglais ou faire en allemand. Et sévéro, la deuxième partie, qui veut dire sévère, austère ou inamical. Donc si on voit les deux morceaux comme ça, c'est aller au-delà de ce qui est inamical, aller au-delà des difficultés. Donc c'est ça la persévérance. Si on regarde une définition telle qu'on la trouve dans le dictionnaire, la persévérance, c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution. Alors, malheureusement, je trouve dans la définition, on revoit plus cette idée d'aller au-delà, d'aller plus loin qu'eux. Et c'était ça qui m'intéressait dans le. Si on reprend l'étymologie, en fait, hein, avec le père sévéro, d'aller plus loin et de se dépasser, en fait. Ah, on pourrait presque donner une définition biblique en changeant juste quelques mots, qui serait demeurer ferme et constant dans la foi, dans la résolution de faire la volonté de Dieu. Vous voyez, quand je vous dis tout à l'heure de ne pas repartir à zéro, d'être capable d'aller plus loin, on est dans la définition de persévérance. C'est plus loin, au-delà des difficultés. Et tout l'intérêt des difficultés dans notre vie, tout l'intérêt de tout ce qui peut nous arriver comme malheur, c'est que le Seigneur nous forge, il nous fait passer par le feu, on revient à l'idée de Pascal aussi, et pour pouvoir prendre de la valeur, pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Si on n'a aucune difficulté, on ne grandira pas forcément beaucoup non plus. Vous vous souvenez de l'histoire du papillon que Maïa racontait ici, où le monsieur, il aide le papillon, il ouvre sa chrysalide pour l'aider à s'envoler, il s'aperçoit que le papillon reste tout recroquevillé et ne grandira pas. Et parce qu'il a besoin des difficultés pour étirer ses ailes et pour prendre toute son ampleur. Et on ne peut que souhaiter des difficultés dans notre vie. C'est bizarre à dire, hein, mais parce que s'il n'y a pas les difficultés, on ne grandira pas autant. Et je pense que ceux qui ont avancé le plus loin avec le Seigneur, c'est eux qui ont les plus grandes difficultés. Alors, quel est le lien? Est-ce que c'est d'abord avec le Seigneur qui fait qu'on a des difficultés? Ou, voilà, on peut pas, on cherche pas, je crois que ça ne nous appartient pas. Mais il y a cette idée-là. On devrait rechercher les difficultés dans notre vie. Alors, pas juste aller chercher les ennuis, c'est pas la question, mais prier le Seigneur et voir quand il nous arrive quelque chose, dire « Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener ?» Quand tu veux m'amener au-delà d'eux, c'est où cet au-delà et puis juste lui faire confiance après. Je vous disais au tout début, la persévérance, c'est juste la confiance dans ce que le Seigneur nous a donné et de pas repartir à zéro. Dans Hébreux chapitre 10, on lit: N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Ouais. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il abandonne, s'il ne persévère pas, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et je vous relis juste la première partie. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a un, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez. Mais ça ne dit pas vous allez l'obtenir tout de suite après avoir accompli. C'est vous, votre partie, c'est vous accomplissez la volonté de Dieu. Et puis, à un moment ou un autre, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Je suis en train de lire un livre sur des missionnaires en Chine dans les années 50, il me semble. Et si j'ai bien compris, autour de ces années-là, ils ont chassé tous les étrangers de leur territoire, tous les missionnaires, et parce que bah, c'était des, ils venaient contre le communisme. Donc voilà, donc c'est la Chine de l'époque. Je ne sais pas si c'est très différent maintenant, mais en tout cas, ils ont évacué et dans le dans cette cette association missionnaire, enfin c'est une espèce d'association qui envoyait des missionnaires. Ils en avaient pas mal en Chine. Et ils leur ont donné l'ordre de bah, rapatrier, repartez dans vos pays, parce que là, là, c'est plus possible, ça commence à craindre. Il y a dans les années 50, j'ai plus la date exacte. Et donc, il y a deux personnes qui voulaient aller en Mongolie, donc un couple missionnaire. Et ils avaient vraiment sur le cœur de dire, mais Seigneur, on veut évangéliser les Mongols. Ils reçoivent une lettre d'une église qui les appelle et qui dit, bah, venez chez nous, il y a du travail pour vous. Donc ils s'attendent à être bien reçus, ils savent qu'il y a un missionnaire avant qui vivait là-bas et qui avait une petite, ils appellent ça une station missionnaire, mais qui était assez confortable. Ils disent on va pouvoir vivre là-bas et puis ils avaient vraiment un cœur d'évangéliser. Ils arrivent là-bas, ils sont mis dans une mansarde, enfin un truc qui, très petit, et progressivement ils s'aperçoivent que tout est bridé. Ils peuvent pas, au début ils peuvent à peine sortir de la ville, après on leur dit vous restez dans la ville, vous allez plus dans les églises là, vous faites plus ci, faites plus ça, vous restez dans votre bâtiment, et puis après vous, quasiment vous restez dans votre cuisine et on veut plus vous voir quoi. Donc compliqué, le monsieur se fait cuisiner par on va dire l'équivalent des renseignements généraux chinois et globalement on lui donne la possibilité soit de collaborer. Et dans ce cas-là, on l'aidera à sortir du pays, mais il faudra qu'il envoie des informations, ou ben, il va rester moisir là, et puis c'est tout, il restera dans son petit bâtiment. Et le monsieur et la dame reçoivent une confirmation claire du Seigneur de « vous pourrez sortir, vous savez sortir du pays ». Il y a des versets qui donnent dans le livre où c'est absolument clair, quoi. Quand on lit les versets, on se dit « mais c'est marrant, c'est écrit pour eux ces versets-là, quoi. Ça correspond pile à leur situation ». Et donc le monsieur, ça le travaille beaucoup, parce qu'il se dit « mais... » Il dit, moi, j'avais à cœur d'évangéliser. Alors, c'est quoi la volonté du Seigneur dans tout ça? Je vais me faire sortir du pays alors que je voulais évangéliser. C'est pas ça. Enfin, et donc, il cogite beaucoup jusqu'au moment où ils sont obligés de s'abandonner au Seigneur et ils sont dans des conditions où ils n'ont plus rien. Ils ont vendu leur vaisselle parce qu'ils pensaient partir vite. À un moment, on leur dit, vous faites vos valises, vous allez partir. Ils vendent tout, ils n'ont plus rien. Et finalement, bah, rien. Alors, ils mangent chez des amis pendant 4 jours parce qu'ils n'ont plus rien. Et au bout d'un moment, ils sont obligés de réintégrer leur cuisine avec rien parce qu'ils ne partent pas. Et en fait, ils ont dû attendre 2 ans de plus avant de partir. 2 ans juste à bah, attendre ce qui est promis avec persévérance. Et juste à essayer de glorifier le Seigneur dans le peu qu'ils avaient, le peu de contact qu'ils pouvaient encore avoir avec l'extérieur. 2 ans de persévérance avant de pouvoir enfin partir. Et ils ont vu tous les autres missionnaires apparemment quitter la Chine de cette mission-là. Et eux, ils étaient coincés. Mais avec la promesse, vous pourrez sortir. Je vais vous faire sortir de là, l'ennemi ne vous touchera pas. C'était des versets qui ressemblaient à ça. Toujours dans les livres, très positif les livres Emmanuel. C'est planqué là-bas, mais c'est très bien. Il nous a recommandé il y a un mois un livre qui s'appelait Une vie livrée. Et vous allez rigoler parce que c'est encore une fois un truc qui a été dit ce matin. Le livre apporte un élément tout bête qui m'a interpellé à propos de David. Cet élément, c'est que David était un simple berger quand Samuel lui est venu loindre comme roi. Est-ce qu'il est devenu roi instantanément? Ben non, il est resté simple berger, certainement très peu considéré, même si les gens, ils ont dû... Ils ont dû se dire, tiens, c'est marrant, cette annonce de Samuel, enfin, David, quoi. Et on revient à ce que disait Étienne. Et il a dû attendre des années après l'annonce de Samuel. Il est resté berger, il a fait confiance à Dieu et il n'a finalement pas cherché à prendre le pouvoir lui-même. Parce qu'on pourrait se dire, il a la promesse de devenir roi. Eh bien, il prend des soldats et puis il devient roi. Enfin, il y a moyen. Hein. On peut toujours, avec une petite guerre, avec un push, quelque chose, on peut récupérer le pouvoir. Il ne l'a pas fait comme ça. Un jour, son père il lui demande d'aller ravitailler ses frères qui sont sur le champ de bataille, de prendre des nouvelles d'eux. Alors il y va, il s'exécute, et vous savez que c'est comme ça qu'il va se faire repérer par Saül, parce que, outré par les propos de Goliath, il dit, mais moi je vais aller m'en occuper, avec le Seigneur, je vais m'en occuper, et puis voilà. Et finalement, rien que ça l'a mis dans les embrouilles, pas possible. Parce qu'à partir de ce moment-là, Saül a voulu le tuer. Il a entendu des choses comme, ah, David, Saül a tué 1 000 hommes, David 10 000. Alors Saül dit, hey, c'est moi le roi ici. Et donc il a été dans les embrouilles finalement. Et on se dit, au plus il cherche la volonté de Dieu, au plus c'est compliqué. Jusqu'à se retrouver dans le désert, avec juste des hommes, on a l'impression de rien. Je ne sais pas si la Bible dit exactement sur son cas à lui, mais voilà. Et il se retrouve avec Saül à l'entrée d'une grotte. Il est planqué dans la grotte, et là, les gens à côté qui disent, hey, vas-y, c'est le moment, tue-le, là, c'est Dieu qui te montre que. Et qu'est-ce qu'il fait, David? Il le tue pas. Il dit, c'est loin de l'Éternel, c'est pas à moi de m'en occuper. Dieu y fera le nécessaire. Et il se trouve formidable juste de ce délai entre l'annonce d'être roi, tout ce qui s'est passé, où il aurait pu en profiter, parce que nous, on se dirait comme ça, finalement. Hein? On voit les choses aller dans le sens de la promesse. On se dit, bah, ouais, ça correspond quand même, c'est ce que le Seigneur il veut pour moi. Mais non, parce qu'il y a la volonté du Seigneur qui est de ne pas faire le mal, qui est de respecter le roi qu'il a lui-même nommé, et donc il n'a rien touché. Et il est devenu roi bien des années après. La persévérance par rapport à ce qui lui était promis. C'est là aussi ce qui est important pour nous, c'est de pas de persévérer pour n'importe quoi. C'est d'avoir reçu une promesse de la part du Seigneur, et on en a plein, hein, faut pas vous inquiéter, et de persévérer là-dedans. Joseph aussi, c'est un exemple de persévérance. Dans quoi est-ce qu'il a persévéré? Dans sa foi à Dieu, tout simplement. Il y avait des épreuves lui aussi. Hein. Ils ont tous des vies de fous, quoi. Des vies de fous. Il aurait que arrivé des trucs où nous, on l'imagine même pas. Et malgré les épreuves, le manque de compréhension, tout ça, il a gardé sa confiance à Dieu et il n'a pas douté. Et on le voit ça à la fin de sa vie. Il n'a pas douté que Dieu faisait ça pour une bonne raison. Et on voit en fait, c'est quand son père décède, ses frères, ils commencent un peu à se dire, oula, maintenant que le père est plus là, Joseph, il risque de se venger. Et là, il leur dit, mais depuis le début, Dieu, il contrôle tout, et c'est lui qui a prévu ça pour que je sois premier ministre d'Égypte. Et ce n'est pas un truc qu'il invente là comme ça, c'est quelque chose qui a été travaillé dans son cœur, et on sait que ça vient de son cœur, quoi, c'est tout. En fait, quand on lit, je pensais à David, à Joseph, finalement, on pourrait lire Hébreux 11. Alors, c'est le chapitre sur les témoins de la foi, mais les témoins de la foi, c'est des témoins de la persévérance dans la foi aussi. Ils ont tous persévéré. Est-ce que Noé a vu la pluie tomber quand Dieu lui a dit fais un bateau? Ben non, il a attendu combien de dizaines, centaines d'années pour faire son bateau avant de voir la pluie qui tombe? Les Israélites, est-ce qu'ils ont vu la muraille bouger de Jéricho tout de suite? Ben non, ils ont dû faire le tour une fois, tous les jours, jusqu'au septième jour, ils ont fait le sept tours, et là, ça s'est effondré. Imaginez si en cours de route, ils s'étaient dit, attends, mais c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire, arrête là. Arrête là, mais faire le tour d'une muraille pour la faire tomber, c'est absurde, c'est complètement absurde. Mais ils avaient une parole à Josué qui disait, tu fais ça et la muraille va s'écrouler et je te livre la ville. Donc ils se sont appuyés sur cette promesse-là, ils ont fait leur tour de manière complètement idiote à nos yeux, et à la fin seulement, ils ont obtenu ce qui était promis. La muraille s'est écroulée, ils ont pu prendre la ville. Ah, on peut se faire plein de délires, mais s'ils n'avaient pas fait ça, s'ils s'étaient arrêtés en disant, attends, on va la vaincre nous-mêmes, ce truc-là, c'est n'importe quoi, ça serait pas. Qu'est-ce qui se serait passé? Ils n'auraient probablement pas pris la ville parce qu'elle était trop forte pour eux, ils n'auraient peut-être pas réussi à embarquer dans le pays non plus parce que ça bloquait l'accès au pays, et on ne sait pas pour combien de temps ils étaient repartis après. La fois d'avant, quand ils avaient désobéi, ils ont fait 40 ans dans le désert. Voilà. Donc là, s'ils avaient désobéi, on ne sait pas ce qui se serait passé. Si on revient sur cette idée d'Hébreux 11, les témoins de la foi, comment est-ce qu'il commence ce chapitre-là? Au verset 6, il dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. c'est pas écrit de ceux qui l'ont cherché une fois, ou deux fois, ou autant de fois que vous voulez. De ceux qui le cherchent, c'est-à-dire qui continuent à le chercher. C'est une action continue de je cherche Dieu et je continue là-dedans. Le verset, c'est « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et après toutes ces histoires-là, vous arrivez sur Hébreux chapitre 12, et ça vous dit les premiers versets. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous voyez, on ne parle pas de lutter contre n'importe quoi, contre les bricoles de la vie. On parle de lutter contre le péché, on parle de choses qui sont spirituelles. Et donc là, l'exemple, c'est quoi? C'est de dire, mais c'est presque un reproche qu'on lit dans Hébreux, en fait. Mais vous plaignez pas, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Et l'exemple qui est donné les versets précédents, c'est mais Jésus, regardez sa vie à lui. Et il a été jusqu'au bout. Alors prenez exemple sur lui et allez jusqu'au bout. Alors je reviens une dernière fois sur le livre qu'Emmanuel avait recommandé. Je vous le recommande aussi, hein. Il est vraiment bien, il n'est pas long effectivement, et les idées sont... Il n'y a pas beaucoup d'idées dedans, c'est très clairement exposé. Voilà, je continue la pub d'Emmanuel. Le thème de la vie, c'était une vie consacrée à Dieu. Et en fait, l'idée exposée dans le livre, c'est qu'il faut simplement se donner complètement à Dieu, et qu'il ne faut pas se dire que... Dieu, il réserve ses grands plans à quelques personnes, à une élite, en fait. On a tendance à mettre des gens sur des piédestals, et dire, ah, lui, c'est quelqu'un, un serviteur de Dieu, et bon, moi, forcément, le Seigneur, il n'y a pas tout ça pour moi. Et c'est nous qui plaçons les limites quand on fait ça. Et ça rejoint, finalement, ce que disait Norman, je ne sais pas si vous l'avez entendu pendant les messages la semaine dernière, il disait, quand il parlait de tout ce qu'était le chrétien, il nous disait, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est la vie chrétienne normale. Et la vie chrétienne normale, il l'a dit vraiment souvent dans ses messages. Et moi, c'est quelque chose qui me perturbe quand il dit ça. Je lui dis, mais j'en suis pas là, moi. Il y a plus encore pour nous. Donc, je reviens à l'idée de persévérance, c'est d'aller au-delà, plus loin. Alors là, finalement, la question qui est importante dans cette idée de persévérance, c'est jusqu'où vous voulez aller. Jusqu'où vous voulez avec le Seigneur? Est-ce que voilà, c'est bien quoi, hein, je fais ça dans l'église, c'est pas mal, hein, c'est une vie chrétienne raisonnable. Mais c'est pas la vie chrétienne que le Seigneur il a pour vous. Et s'il y a des grands plans qui sont prévus que vous passez à côté, c'est dommage pour vous, pour le Seigneur aussi. Le facteur limitant, c'est pas le Seigneur, c'est nous. Le Seigneur, lui, du boulot, il y en a, il y a des capacités à donner, il y a plein de choses. Et à chaque fois, c'est nous qui sommes là à nous dire « Ah ouais, mais moi, enfin... » Et en fait, tout ce qu'il demande, c'est qu'on se donne à lui. C'était ça le thème du livre, c'était la vie consacrée à Dieu. Simplement, mon but, mon truc à moi, je me donne à lui. Et lui, il fera le reste. Mais il faut que je me donne complètement et que je persévère dans cette voie-là. En fait, régulièrement, je me donne à nouveau à lui. Et je reste dans une position où je suis donné. Et lui, quand il verra que tout est OK pour lui, il dit « Bon, bah, lui, je peux en faire ce que je veux, je le mets là. » Et tant que nous, on bloque, et ben c'est lui qui est coincé à cause de nous, finalement. Alors, est-ce que vous voulez aller au point de ressembler à Norman? Ben non, c'est pas assez. C'est pas assez. On se dit, Norman, oh, c'est une référence pour nous. Oui, comme Paul, c'était une référence à la Bible, comme des gens, enfin, il y en a plein, des références. Mais la référence qui est au-dessus d'eux, c'est Christ. C'est-à-dire que Norman, c'est pas assez. Il y a du boulot, hein? Il y a du boulot. Et c'est comme ça pour nous tous. Il ne faut pas s'arrêter là et dire ben, « Le Seigneur, il veut une vie chrétienne basique. Si, » Si on était tous à se donner comme Norman s'est donné au Seigneur, eh ben, on serait tous comme lui. Ce n'est pas le Seigneur qui met les limites. Dans la Bible, on nous dit qu'il y a du... La moisson approche, mais il y a peu d'ouvriers. Et que le problème, ce n'est pas le travail. Dans le royaume de Dieu, il y a du travail pour tout le monde. Il n'y a pas de chômage. C'est les ouvriers qui manquent. Les ouvriers, c'est nous. Donc c'est à nous à faire le travail, c'est à nous mettre devant le Seigneur. Et je dis, le travail, c'est quoi? C'est simplement de se mettre devant lui, dire, bah, Seigneur, c'est vrai, tu as plus pour moi, je me limite bêtement, et je veux plus. Je ne veux pas en rester là dans ma vie avec toi, je veux aller plus loin. Donc je vous laisse avec cette idée-là, en fait, qui est la plus importante dans la persévérance. Je vous disais, la définition, c'est aller plus loin, au-delà d'eux. Et la question, c'est jusqu'où vous voulez vous donner à Dieu. C'est pas jusqu'où vous voulez aller. Lui, il verra jusqu'où il vous emmène. C'est pas vous qui choisissez. Mais vous, là où vous mettez la limite, le curseur, c'est jusqu'où vous vous donnez à lui. En fonction de ça, lui, il pourra faire des choses plus ou moins grandes. Est-ce qu'on lui réclame jour et nuit, comme la veuve, comme mon directeur? C'est un exemple, hein, c'est bizarre, mais est-ce qu'on lui réclame jour et nuit ce qu'il nous a promis? Est-ce qu'on lui casse les pieds? C'est pas dans le sens négatif, mais de vraiment de revenir et de Seigneur, ça, tu l'as promis, je veux m'accrocher à ça, je le veux, c'est important. Et en fait, on le demande suivant son cœur. Il l'a promis, on demande quelque chose qu'il promet. Donc c'est logique, y a rien qui va bloquer là-dedans. Alors, de quelle persévérance est-ce qu'on fait preuve? Non pas dans notre vie de tous les jours, nécessairement, dans nos difficultés, mais dans notre vie avec Dieu. On a tendance à se focaliser sur les difficultés de notre vie. Dans un sens, les bricoles, même si on a des difficultés plus ou moins grandes, on ne va pas diminuer ça. Mais le plus important, c'est la vie avec le Seigneur. Le reste autour, c'est du détail. Même si ça nous paraît, nous, important, mais c'est du détail. Dans Éphésiens 3, au verset 20, on lit: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais on revient, hein, persévérance, au-delà d'eux. Est-ce que vous voulez ce qui est promis ou plus que ce qui est promis? Il faut aller plus loin que ce dont on se contente, en fait. Je termine avec un dernier verset, Jacques 1, verset 25, qui dit: Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a aussi la notion d'être heureux là-dedans. Persévérance, c'est pas juste galérer et puis aller contre le courant, c'est missionnaire. Après avoir été travaillés par Dieu, ils étaient heureux, avec rien, avec des conditions qui sont pitoyables. Ils étaient coincés dans leur petite maison et rien. Ils ne pouvaient plus voir les gens, ils ne pouvaient plus évangéliser. On pourrait dire, ils font même plus la volonté de Dieu. Ils n'avaient plus rien, mais ils étaient heureux. Bah oui, parce que abandonner tout le temps, ça rend pas heureux. Alors que persévérer et obtenir ce que Dieu a promis, c'est là où on a de la joie. Je vais prier. Seigneur, ces paroles que je dis, c'est pas pour les autres, c'est pour moi aussi, Seigneur. Seigneur, à force de se mettre devant toi, on réalise qu'on a si peu. Seigneur, qu'il y a encore tant de travail à faire, et c'est pas un regard de désespoir, c'est un regard d'espoir vers toi, de dire que tu as plus pour nous, Seigneur. Tu veux pas nous laisser comme ça, mais tu veux nous faire avancer plus avec toi, et Seigneur, pas nous faire ramer pour nous faire ramer, mais pour nous transformer, pour nous façonner, Seigneur, et pour nous rendre heureux. Merci, Seigneur, de tout ce que tu en réserves pour nous. Et Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous de te limiter dans ton action à cause de plein de choses dans notre vie, Seigneur, mais des choses qui n'en valent pas le coup. Seigneur, travaille nos cœurs et fais grandir cette faim, cette soif de toi pour avoir plus, Seigneur, pour aller plus loin avec toi. Seigneur, aide-nous à persévérer en toutes choses, mais surtout dans la vie avec toi, Seigneur, dans ta volonté. Merci parce que tu fais tout le reste, Seigneur, et si nous, ça nous paraît déjà grand, Seigneur, toi, ce que tu fais, c'est encore plus grand. Merci pour ta parole, Seigneur, merci pour tes promesses. Amen.